Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Les hirondelles feront-elles les prochains printemps ? Rien n'est moins sûr quand on sait que les populations de ces espèces nicheuses sont en fort déclin depuis des années. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Olivier Rotel, directeur de la LPO Bretagne. Mais avant, direction les Côtes d'Armor. Depuis 2018, le groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor, le GEOCA, anime chaque année une campagne de sensibilisation dédiée aux hirondelles. L'objectif est d'apprendre au grand public à reconnaître les différentes espèces, à recenser leurs nids et à les accueillir. Se sont joints à cette opération en 2022 les associations Vive Armor Nature, Bretagne Vivante et la LPO. Le recensement des hirondelles sur la commune de Langueux avec les bénévoles de Vive Armor, c'est un reportage signé Gwenaëlle Lefort de Radioactive à Saint-Brieuc.
On va descendre à Bouteville, qui est juste au bord de la baie, et on va sillonner tout le bas de la commune des Grèves pour pouvoir recenser tous les nids d'hirondelles. Alors les hirondelles de fenêtre surtout. Depuis 7 ans, on compte régulièrement les nids d'hirondelles à Langueux et on sait où elles nichent, les maisons. Et en plus, les nids d'hirondelles de fenêtres sont visibles de la rue. Quoi. C'est beaucoup moins compliqué. Quoi.
Et c'est les habitants qui vous appellent et qui vous disent on a des hirondelles chez nous ou...
Alors il y a les deux, alors c'est ce qu'on souhaite. En fait, on a pris le taureau un petit peu par les cornes en se déplaçant carrément. Donc là, on va sillonner toute la commune. Et bien sûr, dès qu'une maison accueille des nids d'hirondelles, on essaie déjà d'avoir un contact direct avec les propriétaires. Et on leur remet une fiche d'identification et une petite fiche aussi pour les remercier. On appelle cette fiche la fiche de félicitations pour pouvoir accueillir et accepter les hirondelles chez eux. On est une bonne dizaine ce matin. Bon, c'est bien. Hein. Alors plus, c'est un petit peu plus compliqué, mais 10, là, c'est bien. C'est bien.
Avec des gens expérimentés, d'autres qui n'ont jamais fait
alors,
ça.
Moi, alors, bien sûr, là, j'ai un copain qui m'attend, Jean-François, qui est expérimenté. Mais moi, ce que je souhaite avant tout, c'est que le public participe, le citoyen participe. Qui n'ait aucune connaissance, ça n'a rien à voir. On est là justement pour faire de la sensibilisation et pour leur montrer comment on réalise et puis avoir une approche auprès de nos chères hirondelles. Quoi.
On va prendre le numéro de la maison,
de la rue, ouais.
Le nom de la rue, et on a 1, 2, 3, 4 cases. 4 cases, et on va marquer par exemple « nid occupé ». Parce que c'est important de mettre nid occupé parce que c'est là qu'on va pouvoir à la fin comptabiliser à peu près l'état de la population à Langueux. En considérant par exemple qu'il y a à peu près 4 petits par nid, si on en trouve 10, on saura qu'il y en aura 40, plus les parents, voilà, on va avoir une idée de la population langueusienne. Et on va marquer aussi les nids vides. Parce que bien souvent, les nids vides, soit les hirondelles ne sont pas revenues cette année, malheureusement ça arrive. On va mettre aussi, si par exemple il y a un nid incomplet, c'est-à-dire si le nid est en construction ou si le nid a été détérioré, on va le mettre aussi. Enfin, on va mettre ici, nid squatté. Parce que bien souvent, les nids d'hirondelles sont squattés en général par des moineaux. Et si par exemple, il y a vraiment quelque chose à marquer, on va marquer ici une remarque.
Il y a un nid sous la 1, 2, 3, il y en a un. Alors pour savoir s'il est occupé, on regarde s'il y a des fientes au sol.
Il y en a.
Là, il n'y a pas de fiente.
Si on attend un petit peu, comme comment ils nourrissent, ça devrait. Il faut des allers-retours souvent.
Vous voyez tout à l'heure, c'est blanc au-dessus, comme il a indiqué.
Ah oui.
Et elles adorent se fixer sur la pierre. Ça semble beaucoup plus facile pour elles de se fixer que sur.
Ça s'accroche mieux. Il y a des infractuosités.
On a la réponse.
C'est un nid en construction. D'où l'utilité toujours d'avoir des jumelles, parce que là vous ne voyez pas, mais l'orifice, c'est-à-dire l'entrée, elle est très grande pour l'instant. Et donc là, on l'a vu rentrer, mâle ou femelle, elle est rentrée et on voit qu'elle est en train de mettre des boulettes pour fermer l'ouverture.
Mais le contact, t'as vu, hein, c'est vrai, René, il a l'habitude, là. On regarde s'il y a des nids d'hirondelles. Ah ouais, ok, ben venez.
Oui.
C'est vraiment important. Ouais. Si on veut sensibiliser, c'est comme ça qu'on va faire. Hein. Faut comprendre, hein, que quand il y a des nids d'hirondelles, si elles font des crasses, ben, quelquefois, ça peut gêner. Et il faut être compréhensif. Par contre, il faut pouvoir donner des arguments pour essayer peut-être de corriger, puis de faire en sorte que les gens acceptent. Il y a des petits dispositifs qu'on peut mettre.
Comme quoi?
Ben, par exemple, s'il y a un nid qui est placé à un endroit de maison, peut-être qu'il y a la possibilité de mettre un pot de fleurs avec des géraniums dedans, ou je ne sais pas quoi, de façon à ce que les petites crottes tombent dedans. Après, ça peut être une planchette anti-salissure, comme on le disait, mais après, ça peut être une planchette en bois avec des équerres, enfin voilà. Il y a des tas de solutions, mais avant tout, il faut sensibiliser.
Sensibiliser, éduquer pour
éduquer, préserver. Voilà, voilà. Et que les gens, en fait, soient fiers, après, d'avoir des nids d'hirondelles chez eux. Parce que c'est ça aussi, c'est que, ouais, c'est vrai, on n'a pas l'habitude. Voilà, et puis, bah, y a des gens qui sont sensibilisés, et petit à petit, au gré de nos passages, là, on va en voir, hein. Ça se trouve, il y a des gens qui vont nous dire tout de suite, là, « Ah ben, ça y est, ils sont encore là !» Donc, ça veut dire qu'ils savent qu'on passe, et puis, bah, ils sont contents d'en avoir.
Oui, c'est ça, en fait, quand on aime, on protège.
Voilà, voilà, et puis, quand on connaît. Hein, la preuve, puisqu'il y a des gens qui ont des nids d'hirondelles chez eux, ils ne sont pas au courant. Alors que c'est sous leur porte pratiquement, mais ils n'ont pas fait attention. Parce qu'ils n'ont pas peut-être le même regard que nous par rapport à l'environnement. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de regarder, d'observer. Alors voilà, c'est ça. Ah, ça va être bon, hein. Je pense qu'on peut faire demi-tour. Hein.
Et c'est quoi l'intérêt de recenser les nids d'hirondelles?
C'est surtout de voir d'année sur année si les nids d'une année sur l'autre sont toujours occupés ou non occupés. Et donc ça permet de savoir si les mêmes oiseaux, puisque une hirondelle reviendra toujours au même nid d'année sur l'autre. Si le nid est fait, ben, elle ne revient pas, elle en fera un autre ailleurs ou elle changera vraiment de coin. Mais c'est surtout de voir s'il y a des nids inoccupés sur une grande longueur. Ça veut dire que, on appelle ça des colonies, ont carrément disparu. Donc on s'est aperçu quand même qu'on a quand même 40% des hirondelles qui ont disparu en très peu de temps.
Et on explique ça à comment?
Ben, la principale nourriture des hirondelles, hein, des trois hirondelles, hein, rivage, rustique et fenêtre, c'est des insectivores. Donc s'il n'y a pas d'insectes, il n'y a plus d'hirondelles. L'enjeu, c'est de comptabiliser et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus d'hirondelles.
Et là, bah, pour les grèves, c'est terminé aujourd'hui?
Ah là, ça va être terminé.
Et bilan des comptes, alors?
Bilan des comptes, ben, je ne sais pas trop. Là, on était à combien tout à l'heure? 29. Là, on est à 29. Donc, 29, allez, je vais dire à la louche. On en a encore 10 peut-être à trouver et ben on sera dans la fourchette des 39.
Et par rapport à l'année dernière, alors c'est à peu près pareil?
Ben, je pense que ça va être à peu près pareil. La difficulté que nous avons, c'est qu'elles construisent avec de la marne et les nids ne sont pas solides. La plupart des nids qui ne sont pas occupés, ce sont des nids qui se sont détruits d'eux-mêmes. C'est ça un petit peu la problématique. Donc ça veut dire que si on veut inciter peut-être les citoyens à accueillir des nids d'hirondelles, on peut très bien leur conseiller de mettre des nids chez eux, artificiels, pour que les hirondelles puissent venir. Alors, je dis tout de suite, souvent les gens nous disent, ben ouais, mais si vous mettez des nids artificiels, les hirondelles ne vont plus savoir faire leur nid. C'est remarqué, ça a été vu, revu, que c'est dans leur gène. Même à l'état naturel, si elles peuvent se passer de faire un nid, elles ne vont pas le faire. Parce que ça veut dire que si le nid il est opérationnel, ben elles vont pouvoir tout de suite se reproduire. Alors que si le nid est mal entretenu, s'il est détérioré, ou alors s'il faut refaire un nid, eh ben il va y avoir un décalage dans la reproduction de une semaine, voire deux semaines. Donc l'intérêt pour elles, pour tous les animaux, c'est de se reproduire le plus rapidement possible. À la santé de nos hirondelles.
Des hirondelles, des...
De nous tous.
Des martinets, de tout le monde.
Chine.
Et surtout ça.
Chine.
À la santé des hirondelles, avec donc ce reportage sur ce recensement des nids d'hirondelles tournés avec l'association Vive Armor Nature dans la région de Saint-Brieuc. Un reportage signé sur place, Gwenaëlle Lefort de Radioactive. Alors pour aller plus loin sur cette thématique, nous sommes en liaison aujourd'hui à Fréquence 8 à Montfort-sur-Meu avec Olivier Rotail, directeur de la LPO Bretagne, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Olivier Rotail, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous à ce reportage qu'on vient d'entendre ? Est-ce que l'on retrouve selon vous tous les bons ingrédients d'un recensement de nids d'hirondelles ?
Ah ouais, c'est parfait. C'est même plutôt, comment dire, motivant et enthousiasmant, puisque c'est que le début de l'aventure. C'est une opération qui doit s'inscrire dans le temps et qui, dès cette année, a déjà des premiers résultats très intéressants en termes de mobilisation. Et oui, c'est parfait, tout est là. Tout ce qu'il faut faire est bien raconté.
Alors là, c'était spécifiquement le recensement de nids d'hirondelles dans ce village de Langueux, près de Saint-Brieuc. Est-ce que ça vaut pour d'autres espèces nicheuses, par exemple, comme le martinet ou d'autres espèces ?
Oui, bien sûr. En fait, l'intérêt de démarrer avec l'hirondelle, c'est que c'est une espèce qui bénéficie d'un capital sympathie indéniable, qui est vraiment partagé par tout le monde. Et donc, en ce sens-là, c'est une porte d'entrée pour ensuite, ou en même temps, commencer à regarder d'autres espèces. Alors évidemment, on pense au martinet, qui est souvent confondu hein, d'ailleurs avec les hirondelles, au martinet noir. Mais c'est aussi l'occasion d'évoquer les espèces nicheuses en milieu urbain, inféodées au bâti, on va dire, comme le moineau domestique ou encore bien d'autres petits passereaux qui peuvent être aussi concernés par ces comptages. Mais concentrons-nous d'abord sur les hirondelles. Il y a déjà pas mal de boulot de ce côté-là, quoi.
Effectivement. Olivier, vous êtes vous-même impliqué à la LPO dans cette opération de comptage à côté d'autres partenaires, donc Vive Armor Nature qu'on a cité tout à l'heure, mais également Bretagne Vivante et du groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor. Comment la Ligue de protection des oiseaux s'est, elle, spécifiquement impliquée dans ce dispositif sur ces différentes communes des Côtes d'Armor ?
Alors, on a suivi le mouvement. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est une initiative de Vive Armor Nature à laquelle le GEOCA s'est rapidement associé. Donc c'est vraiment ces deux associations qui ont été très très moteurs dès le départ. On est venu nous chercher, ainsi que Bretagne Vivante, et c'est avec plaisir qu'on s'est mobilisé. L'idée étant quand même à terme de couvrir hein, ou d'embarquer tout le territoire. C'est un vrai défi. À plusieurs, ça sera plus efficace, plus rapide à mobiliser et surtout que on n'est pas forcément implanté en termes de bénévoles au même endroit sur le territoire des Côtes d'Armor. Donc voilà, ça multiplie les initiatives locales, c'est parfait, quoi.
Alors on l'a compris dans ce reportage, ce sont des bénévoles hein, majoritairement qui réalisent ces comptages. En quoi la formation de ces bénévoles est indispensable, extrêmement importante à la réussite de ce dispositif ?
Eh ben, vu l'objectif visé qui est quand même de recenser régulièrement les nids d'hirondelles, voire les individus présents dans les bourgs sur l'ensemble du département, c'est quelque chose que les associations ne pourraient pas faire en mobilisant uniquement leurs équipes salariées, faute de moyens, faute de financement. Donc, on a la chance d'être des associations et donc de pouvoir s'appuyer sur le bénévolat. Et qui plus est, les bénévoles sont souvent demandeurs d'actions de terrain comme celle-ci, qui ont du sens, où ils ont le sentiment d'être utiles. Donc là, sans eux, clairement, ça serait très difficile, voire quasiment impossible. L'idée étant d'inscrire cette action de façon régulière d'une année sur l'autre, oui, on a vraiment besoin de forces bénévoles pour y parvenir. Et l'avantage aussi, c'est que pour aller recenser des nids d'hirondelles ou compter des hirondelles, on n'a pas besoin d'être un ornithologue confirmé. Et c'est vrai qu'une formation rapide, en une heure ou deux, avec des membres confirmés des associations, chacun peut s'y mettre très très vite, quoi.
Pour autant, ça ne s'improvise pas. Il faut quand même une petite formation. Il y a des techniques à comprendre pour réaliser de façon correcte ces comptages.
Il y a un protocole qui est bien raconté dans le reportage, voilà, qui est pas compliqué. Hein. Est-ce que le nid est occupé? Est-ce que c'est un nid qui a été détruit? Est-ce que c'est un nid? Combien d'individus peuvent être au nid? Enfin, voilà. Mais il faut quand même savoir identifier. On parle là, en l'occurrence, de deux espèces d'hirondelles, que sont les hirondelles rustiques et les hirondelles de fenêtre. Donc, il faut savoir être capable d'identifier ces deux types d'espèces au niveau des individus, mais aussi au niveau des nids qui sont différents et qui ne sont pas forcément implantés aux mêmes endroits. Donc, mais tout ça, une fois de plus, ça prend très très vite, quoi.
L'importance de ces comptages d'hirondelles, quel est-il en fait dans le cadre de la protection de la biodiversité dans notre région et dans notre pays et peut-être en Europe aussi et dans le monde?
Oui, là, ça touche à un problème qui prend de l'ampleur en termes de prise de conscience. On voit bien qu'on est sur un déclin de la biodiversité qui est un peu global. Les chiffres ont déjà été évoqués plusieurs fois ces dernières années. 80% de la biomasse d'insectes qui a disparu en 30 ans, 30% des oiseaux en milieu agricole ont disparu entre 89 et 2019. Voilà, et les hirondelles sont concernées par ce déclin. Pour continuer sur les chiffres, l'hirondelle de fenêtre la population a diminué de 33% en 10 ans. Ces chiffres datent de 2015. Pour l'hirondelle rustique, c'est moins 41%. Voilà, les deux espèces sont inscrites sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, avec un statut d'espèce quasi menacée. Donc en fait, ce dont on a besoin, c'est de suivre désormais ces populations et d'étudier aussi les évolutions dans leur comportement. Parce qu'à ce déclin-là s'ajoute aussi une accélération liée au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on commence déjà à observer que certaines hirondelles partent beaucoup plus tard, notamment dans le sud de la France, partent beaucoup plus tard pour migrer en Afrique subsaharienne. Donc il y a des décalages comme ça. Et tout ça étant lié évidemment aux sources de nourriture présentes sur les territoires. Donc, on a vraiment besoin de compter et de suivre ces populations et donc ces lieux d'habitat et de reproduction que sont leurs nids, quoi. Sachant qu'on parle d'espèces protégées, et ce qui est protégé, c'est à la fois les individus, les œufs et les habitats.
Moins 33%, vous avez dit, moins 40% pour certaines espèces. Les chiffres sont assez impressionnants.
Oui.
Quelles sont les causes de ce déclin? Est-ce qu'elles sont multiples, ces causes?
Elles sont exclusivement anthropiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la disparition des habitats, c'est la raréfaction des sources de nourriture, que sont les insectes. C'est la diminution ou la disparition de certaines zones humides qui sont favorables à la fois aux sources de nourriture, que sont les insectes, mais aussi les hirondelles, par exemple, pour l'anecdote, ont besoin pour faire leur nid de boue. Donc, elles ont besoin aussi de zones humides où aller chercher cette boue. Il faut 2000 boulettes pour faire un nid d'hirondelle, donc c'est pas rien. Donc, tout ça contribue effectivement au déclin de ces populations. Quand on rajoute par exemple le martinet noir, qui est aussi une espèce qui vit en milieu bâti, lui c'est pareil, il a chuté de 40% en 10 ans, il est aussi classé comme quasi menacé. Là, c'est une espèce, par exemple, qui est cavernicole, donc qui va nicher dans les maisons. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est aussi valable pour les hirondelles, les nouveaux matériaux ou les opérations de rénovation font que ces espèces-là ont beaucoup de mal à trouver des endroits pour nicher. Il y a moins de cavités dans les maisons pour le martinet. Et pour les hirondelles, il y a des matériaux qui sont utilisés comme l'acier, le verre ou des enduits extrêmement lisses qui ne leur permettent plus de fixer leur nid sur les façades, par exemple. Ou des espaces qui sont de plus en plus fermés. On sait que les hirondelles rustiques qui nichent à l'intérieur, sous des préaux, dans des étables, dans des garages, dans des cabanes de jardin, c'est de plus en plus compliqué, quoi.
Du coup, ces opérations de comptage qui sont organisées, là, en l'occurrence dans la région de Saint-Brieuc, est-ce que ça permet de participer justement à une meilleure sensibilisation des citoyens, des habitants, dans la protection de ces espèces menacées, ou aussi aux causes de leur disparition ?
Oui, bien sûr. En fait, ça a deux effets positifs. Premier, c'est la connaissance, parce que toutes les données qui sont récoltées lors de ces inventaires sont centralisées sur des bases de données participatives, notamment telles que l'outil Faune Bretagne, outil qui est lui-même connecté à un outil national, à une base nationale, elle-même connectée à des bases internationales. Autrement dit, toutes ces données viennent alimenter une base globale qui est vraiment énorme et qui permet aujourd'hui de modéliser certains comportements ou certains déplacements de population et qui permettent de faire quelques projections. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Après, le volet sensibilisation, il est évident. Comme je le disais, les hirondelles ont un capital sympathique et énorme. Voilà, elles reviennent, elles font le printemps et tout ce qu'on veut, etc. Donc, ça permet de toucher les gens et de les éveiller à la fois sur, effectivement, cette situation un peu dramatique, mais aussi tout simplement, et c'est peut-être l'enjeu numéro un, sur la beauté du sauvage qui nous entoure et qui, en soi, permet de porter un regard différent sur globalement l'environnement, la nature sauvage qui nous entoure. Et il suffit pour ça, qu'on vive en ville ou qu'on vive à la campagne, de pousser la porte de chez soi pour être vis-à-vis de ce spectacle permanent. Donc, toucher les gens à travers ces opérations-là leur permet de porter un regard différent et de regarder les choses avec un peu plus de cœur. Et donc, en soi, c'est de la sensibilisation et c'est in fine quelque part une action de préservation, puisque quand on regarde les choses différemment, avec un peu plus d'amour notamment, ou avec un peu plus de beauté, la préservation, elle suit naturellement. C'est vraiment, par exemple, extrêmement valable auprès des enfants. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'actions aussi de sensibilisation auprès des milieux scolaires, quoi.
On est parti de cette action localisée dans les Côtes d'Armor. Est-ce que c'est un dispositif qui existe déjà dans le reste de la Bretagne ou qui pourrait se généraliser au reste de la région ?
Oui, ça pourrait se généraliser. Après, voilà, il faut avoir les bénévoles pour, il faut avoir un maillage relativement complet du territoire pour y parvenir. Si je prends l'exemple de la LPO Bretagne, on va sans doute franchir cette année les 5000 adhérents. Il est clair qu'il y a malgré tout des espaces en Bretagne où on n'a pas de bénévoles. Hein. Il y a des zones blanches. Hein. Et c'est valable aussi pour les autres associations. Mais sur le principe, bien sûr que ce type d'opération pourrait se renouveler. Au sein de la LPO Bretagne, par exemple, on a des groupes bénévoles qui, tous les ans ou tous les deux ans, font du comptage d'hirondelles sur une commune de chaque département, avec une taille relativement identique pour comparer les choses, notamment pour aussi analyser ce suivi-là, quoi. Mais bien sûr, cette généralisation au niveau des sciences participatives, hein, parce qu'il s'agit de ça, bien sûr que ça peut être généralisé, mais c'est déjà en cours, puisque tout un chacun peut avoir accès à ces bases de données. Il y en a beaucoup. Je parlais de Faune Bretagne, mais il y en a d'autres. Il y a la base Oiseaux des Jardins. Et tous les jours, chacun, sous réserve de s'y connaître un minimum, peut saisir de la donnée et participer à ces dynamiques-là, quoi.
Il faudrait beaucoup plus de monde aujourd'hui pour réussir vraiment cette généralisation. Enfin, il y a un appel à bénévoles, justement.
Toujours un appel à bénévoles. Ouais. c'est le principe même d'une association. L'association repose sur sa volonté d'ouverture. Donc, on a d'abord besoin d'adhérents. Puisque c'est quand même la base, c'est le premier acte militant quelque part. Adhérer à une association, c'est lui donner une voix quelque part et qui portera dans les actions qu'elle mènera, notamment en termes de plaidoyer ou de contact auprès des pouvoirs publics, quoi. Donc adhérer et effectivement, si possible, devenir bénévole. Mais inversement, on peut être bénévole sans adhérer, enfin, il y a une forme de souplesse. Mais effectivement, plus on aura de bénévoles et plus on pourra envisager des choses, hein, c'est évident. Et le bénévole, être bénévole dans une association environnementale, comme la LPO par exemple, ça ne veut pas dire être forcément ornithologue. On travaille sur plein de sujets, on a besoin des bénévoles pour plein de choses, pour de la com, pourquoi pas du droit, pour du juridique, pourquoi pas pour de la comptabilité. Enfin, on a une association, il y a une structure. Donc, toutes les formes de bénévolat sont les bienvenues et participent à cet effort-là global.
En tant que radio associative, on ne peut que suivre votre discours sur l'appel aux bénévoles. Les hirondelles, vous le disiez tout à l'heure, sont voyageuses, forcément, elles migrent. Il y a des coopérations qui se réalisent entre la Bretagne et le reste du territoire national ou effectivement aussi au niveau international.
Alors, à l'échelle de la Bretagne, non, pas forcément. Là, c'est du ressort plutôt dans notre réseau à nous, de la LPO France. La LPO France étant membre, du réseau BirdLife international. Donc, c'est à ce niveau-là où ça se joue. Donc, à notre échelle régionale, pour l'instant... on n'a pas d'exemple comme ça de partenariat au-delà de nos frontières, même si effectivement, du fait d'être dans ce réseau LPO, sur certains sujets, on échange régulièrement avec les LPO voisines, avec la LPO Pays de la Loire, la LPO Normandie, etc. Voilà. Mais pour répondre précisément, non, pas vraiment. Enfin, à notre échelle.
Donc ça manque peut-être un petit peu aussi d'avoir des coopérations plus concrètes avec d'autres régions, d'autres pays.
Oui. Mais bien sûr, et ça reste compliqué puisque, pour prendre un exemple qui est relativement connu, c'est vrai que en Europe globalement, il y a beaucoup d'actions menées pour sauver localement des passereaux migrateurs, mais qui lorsqu'ils arrivent sur les côtes africaines, voilà, on change de réglementation, on change de culture, et il y a beaucoup de ces oiseaux qui sont capturés pour être vendus pour l'alimentation. Donc c'est vrai qu'on peut se demander les efforts qu'on fait en Europe peuvent sembler vains une fois que ces oiseaux passent avec plus ou moins de succès les côtes africaines. Bon, voilà, mais c'est vrai qu'il y a un vrai défi, même si globalement une prise de conscience mondiale, on va dire, émerge de toute façon. Il suffit de regarder le contexte environnemental pour voir que voilà, il y a une accélération et que on va tous être plus ou moins contraints à prendre en main ces questions-là, quoi.
Ouais, de s'impliquer,
et à s'organiser ensemble.
De s'impliquer individuellement et ensemble.
Oui, je pense qu'il faut, il faut pas se noyer sur ces considérations un peu mondiales. Il faut surtout prendre conscience que chacun, à son niveau, a la capacité d'agir. Et déjà, c'est énorme. C'est la fameuse goutte d'eau du colibri pour éteindre l'incendie. On est là-dessus. C'est-à-dire que voilà, je vis là où je vis, j'ai un balcon, j'ai un jardin, et déjà, je peux faire des choses. Et ça, c'est extrêmement précieux.
Alors pour tous nos auditeurs qui ont été justement aujourd'hui à nouveau sensibilisés sur ce déclin de ces espèces, je rappelle des chiffres qui vont de moins 33 à moins 40% pour le déclin des hirondelles en quelques années. Comment nos auditeurs, de façon pratique, dans toute la Bretagne, pourraient eux-mêmes s'impliquer? Comment ils doivent procéder pour s'impliquer, se former dans la protection de ces oiseaux? Est-ce qu'il y a des sites de référence pour se renseigner, dont le vôtre, j'imagine?
Oui, juste pour en finir sur les chiffres, je reviendrai à votre question sans problème. Le moineau, par exemple, qu'on considère comme allant bien parce qu'on le croise tous les jours, est aussi une espèce qui va plutôt très mal. Juste pour en finir avec ces chiffres-là, 3 individus sur 4 ont disparu de moineaux à Paris en 13 ans. Et c'est 70% des populations qui ont disparu en campagne. Donc, il faut se méfier des impressions qu'on peut avoir autour de nous. Ce n'est pas parce qu'on voit des espèces. Alors, la population est importante, donc il n'est pas classé en quasi-menacé, il est classé en préoccupation mineure. Mais il n'en reste pas moins que la réalité est celle-ci. Donc, comment fait-on? Eh bien, tout simplement, le meilleur moyen, c'est de rejoindre une association environnementale, que ce soit la LPO Bretagne ou une autre, pour intégrer, pourquoi pas, du moins pour s'acculturer ou pour monter en compétence sur la reconnaissance des espèces et puis pour s'impliquer sur le terrain, pour en parallèle devenir de plus en plus autonome dans les sciences participatives, par exemple, pour saisir de la donnée, pourquoi pas au quotidien, on peut saisir de la donnée en étant à son bureau, en regardant par la fenêtre tous les jours, en faisant un trajet en voiture, et bien sûr en rentrant chez soi et en observant ce qu'il y a autour de soi. Donc il y a les bouquins qui sont toujours intéressants, il y a des sites internet, il y a énormément de choses aujourd'hui à disposition, il y en a peut-être même trop. Donc le meilleur moyen reste quand même de rejoindre une association, je pense.
En tout cas, je donne les références de votre site internet à la LPO, le www.lpo.fr, c'est bien ça?
Tout à fait.
Olivier Rotel, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de la Ligue de protection des oiseaux en Bretagne. Merci également à Florian Lemercier à Fréquence 8, votre radio associative dans la région de Montfort-sur-Meux en Ille-et-Vilaine, pour la réalisation de ce duplex. Nous nous retrouvons, nous, très vite pour un prochain numéro de Biodiversité en Air. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.